Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau, évitez l'alcool et mangez en quantité suffisante. Rafraîchissez-vous en mouillant votre corps ou en utilisant un brumisateur. Vérifiez vos traitements avec votre médecin. Fermez les volets et fenêtres le jour et aérez la nuit. Allez dans des lieux rafraîchis. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
France Culture, il est 12h45, tout de suite la grande table d'été. Bonjour Maëlys Bessery.
Bonjour Adrien. Bonjour à tous, la grande table continue sa promenade estivale à 13h50 avant de reprendre la route. François Sureau terminera son périple parisien avec l'incendie du Crédit Lyonnais. Mais avant cela, nous allons partir pour la Seine-Saint-Denis dont l'objectif de Marvin Bonheur capture les espaces et les souvenirs des scènes quotidiennes fraternelles qui affichent les visages des oubliés. Lauréat du prix du public de Circulation, festival de la jeune photographie européenne qui célèbre au 104 sa 10e édition, il y raconte la Seine-Saint-Denis en images et en sons. La Seine-Saint-Denis dans laquelle se déroule aussi le festival L'été du canal et son extension, l'été solidaire, réponse à la pandémie qui l'a si durement touchée. Des manifestations artistiques en tout genre, concerts, balades urbaines et ateliers dont nous allons parler aujourd'hui. Nos invités sont le photoreporter Marvin Bonheur, Olivier Meyer de Seine-Saint-Denis Tourisme, l'été du canal et l'été solidaire et Samantha Vergati de l'association Altrimenti. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Bonjour Marvin Bonheur.
Bonjour.
Alors on parlait du fait que vous étiez lauréat du prix du public de circulation dans la catégorie enquête de soi. Quelques mots de ces photos que vous avez sélectionnées qui font partie d'une vaste trilogie du bonheur hein, qui recueille un nombre de photos. Quel nombre d'ailleurs exact
jamais,
vous le savez Marvin Bonheur?
J'ai jamais su mais... on doit être aux alentours de peut-être 300, 400 photos au total.
Et là, vous avez fait une sélection pour cette catégorie enquête de soi. Comment est-ce que vous avez justement pensé cette exposition qui se trouve dans un des ateliers du 104, sur l'un des murs?
Ça m'a été proposé il y a à peu près un an, et donc on est assez libre sur la scénographie. Du coup, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile pour un artiste de choisir quelles photos vont être présentées. Et j'ai décidé tout simplement de faire un peu comme un résumé en fait de cette trilogie, donc de découper en trois, qui est découpée en trois parties. Et donc elles sont présentées donc sous forme de collage sur ce grand mur de 6 mètres de long.
Alors vous disiez trois parties, il y a Alzheimer, thérapie et renaissance.
Exactement.
Ouais. Trois thèmes.
Trois thèmes qui représentent le passé, le présent et le futur. Bon résumé. Et donc ça a été présenté voilà de gauche à droite comme une manière chronologique donc de ces trois étapes de ce projet en fait qui a commencé en 2014.
Alors on dit la Seine-Saint-Denis au sens global hein, le 93. Ouais. Comment est-ce que vous avez imaginé ce voyage? Il y a plusieurs villes, plusieurs lieux qui sont représentés. Comment est-ce que vous avez accompli ce périple là? Est-ce que ça s'est fait d'ailleurs de manière linéaire ou au hasard de vos allers-retours?
C'est ça, c'est plus ouais, une vraie balade, ça a été assez chronologique. Donc j'ai eu un peu je reparcours toute mon enfance. Donc en fait, c'est trois villes principales qui sont Bondy, Aubervilliers et Aulnay-sous-Bois. Donc les trois villes dans lesquelles où j'ai vécu.
Aulnay-sous-Bois, c'est la cité des 3000.
C'est pour Aulnay-sous-Bois, c'est la cité des 3000, ouais. La cité des 3000, la Rose des Vents où j'ai passé la plus grosse partie de mon enfance, de mes 8 ans jusqu'à mes 22 ans. Où mes parents habitent toujours aujourd'hui. Je suis assez proche de ce quartier qui a marqué et qui a fait toute mon éducation. Donc c'est pour ça que dans mon projet, il y a une grosse partie de mes photos qui sont principalement faites au 3000, mais aussi à Bondy Nord, où ma grand-mère a habité, où j'ai passé une grosse partie de mon enfance aussi, et Aubervilliers, où j'ai des souvenirs voilà, d'enfants, quoi, de petits jusqu'à mes 8 ans, où l'épicerie, où... La primaire, voilà.
L'épicerie avec ses bonbons hein, que l'on peut voir en gros plan sur les murs. Vous avez donc toujours quelque chose qui vous rattache à ces lieux-là, une expérience personnelle, des souvenirs, vous parliez de nostalgie peut-être.
Ouais.
C'est les portraits que vous avez faits, puisqu'il y a beaucoup de personnages sur vos photos, dont on voit ou pas d'ailleurs les visages. Ces personnages-là, ce sont des connaissances, ce sont des gens que vous avez croisés, des amis d'amis.
Alors c'est un peu, ouais, c'est un peu de tout ça. C'est une démarche qui est née dans mon deuxième volet, donc thérapie, où justement ça m'était un peu le reproche de fait envers moi-même et puis extérieur, au niveau de l'extérieur, on m'a fait beaucoup cette remarque, on voyait pas assez de, on était curieux de savoir qui vivait un peu dans ces espaces qu'on voyait justement dans le premier volet Alzheimer. Et donc très rapidement, pour être un peu à l'aise, j'ai contacté d'abord mes amis qui sont les plus proches. Et au fur et à mesure, j'ai pris un peu confiance en moi aussi de pouvoir prendre un peu ces portraits, cette intimité dans les quartiers. Et donc au fur et à mesure, j'ai eu des amis, puis des amis d'amis, puis même des rencontres dans la rue. Mais c'est vrai que c'est 80% des portraits que j'ai réalisés en Seine-Saint-Denis sont des proches, sont des amis d'enfance de loin ou... au moins.
Alors dans Alzheimer, vous avez commencé, Marvin Bonheur, par des espaces, mais les espaces sont comme des personnages en soi, hein, puisqu'il y a à la fois les grands ensembles que vous photographiez, il y a un sol complètement disfracté, ouais. Comme ça, que l'on voit en gros plan, très impressionnant
cette
sur
photo,
les murs.
Ouais, qui parle beaucoup, j'ai beaucoup de retours dessus, c'est vrai.
Vous pouvez peut-être nous en raconter l'origine.
Bien sûr.
Nous la décrire.
C'est alors du coup cette photo-là, c'est donc elle s'appelle le chemin de l'école. Elle fait partie de mon volet Alzheimer, qui était vraiment basé sur les souvenirs. Et donc c'était lors d'une.
Alors ça donne envie de faire un petit aller-retour sur les titres, hein, quand même. Alzheimer pour les souvenirs.
Ouais.
Ça, vos légendes, elles sont un peu comme ça, hein, assez humoristiques et décalées.
C'est toujours un peu poétique. Enfin, j'aime bien la poésie, même si je suis pas complètement dedans, mais j'ai toujours été assez sensible à ça, le jeu de mots. La langue, comment retourner une image, jouer sur les expressions, etc. Et oui, donc Alzheimer, qui est forcément un souvenir, parce que ça a été justement pendant quelques années comme retrouver des souvenirs qui étaient perdus en fait dans ma tête, mais des souvenirs qui étaient hyper importants. Et donc Chemin de l'école qui en fait partie, qui est une photo qui parle tout simplement pour moi, qui m'a évoqué en fait tous ces trajets d'école que j'ai pu avoir, que ça soit en primaire ou au collège. Où je devais passer par des terrains parfois en construction, en déconstruction ou en travaux, et c'était un peu les passages, passages secrets, mais un peu les détours ou les raccourcis qu'on pouvait faire parfois avec les potes. Et ce jour-là, justement, j'avais eu deux petites filles qui devaient avoir moins de 10 ans avec des énormes cartables qui traversaient justement cet espace.
Et ce sol complètement défoncé.
Et ce sol.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce sol? Vous en savez quelque chose?
Alors, je me suis renseigné. Au final, apparemment, c'était en but d'être refait. Donc, ils voulaient casser ce sol pour, recouler un nouveau béton. Mais je supposais que ça allait rester comme ça pendant longtemps, parce que c'est un peu souvent ce qu'on a vu. En tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les quartiers dans lesquels j'ai grandi. Donc, du coup. Ça n'a jamais changé, en fait. J'ai une autre photo plus récente qui date de l'année dernière avec ce même espace et de la végétation qui a poussé entre les dalles, qui est aussi une photo qui parle beaucoup.
Mais, et aussi des enfants qui la traversent.
Pour le coup, j'ai eu ces fameux enfants qui jouaient, pour le coup, donc c'était l'année dernière à Pâques.
Au milieu d'une végétation sauvage qui avait poussé entre les dalles.
Complètement, tout vert de plein de mauvaises herbes avec des filles. Je crois que c'était un groupe de 5 petites jeunes. Qui s'amusaient là pendant Pâques et qui faisaient un peu leur recherche aux œufs ou je sais pas trop quoi, mais elles s'amusaient, c'était leur jardin secret comme elles me disaient.
Marvin Bonheur, d'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaît dans vos photos, des immeubles pas toujours en bon état, délabrés, c'est aussi ces traces d'une souffrance sociale quand même que vous avez la volonté de montrer, même de pauvreté.
Ouais,
une pauvreté qui est apparente.
Ouais. C'est complètement ça. Ce sont des quartiers populaires dans lesquels j'ai grandi. Donc, effectivement, d'en parler, c'est une chose. Et j'ai très vite ressenti le besoin de le montrer, de le dénoncer aussi. De partager avec mes nouvelles fréquentations parisiennes, puisque ce projet est né aussi à mon arrivée à Paris. Donc, c'était aussi pour moi une manière de montrer en image dans quel environnement on pouvait grandir. Et du coup, essayer de faire un peu ressentir à des personnes qui n'ont pas connu ça ce que ça peut être de grandir dans un quartier populaire en tant que jeune en France, quoi, tout simplement, avec une explication. Alors, j'essaie de pas rentrer dans un truc trop chaotique et négatif, mais ça fait partie d'un décor que j'ai connu, que je connais et qui a fait mon enfance, une enfance que je regrette pas du tout. mais qui est particulière et que j'avais envie de partager.
Alors ça passe, on parlait de l'espace, ça passe aussi par l'architecture, des grands immeubles de béton notamment, l'architecture qu'on appelle brutaliste. Et ces espaces-là, ils vous intéressent aussi d'un point de vue esthétique,
complètement,
Marine Bonnard.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaisait?
Je trouve que l'architecture brutaliste, elle est assez proche de du mode de vie qu'on retrouve dans ces lieux, qui est quand même très brut, très transparente, où tout est direct. J'ai grandi avec des personnes qui vivent à 100%. C'est-à-dire que quand ça va très bien. Quand ça va pas bien du tout. Et c'est très brut en fait, comme manière de vivre. Et je trouve que l'architecture qui nous entoure est en cohérence avec ça en fait. Je pense peut-être même que l'architecture influe sur la manière dont on vit en fait dans ces ensembles-là en fait.
Alors je vous propose d'écouter la réalisatrice Alice Diop. Elle était sur France Culture le 30 août 2017.
Moi j'ai une enfance extrêmement heureuse. C'est-à-dire que c'est ça qui est paradoxal, c'est que ma vie à Aulnay, au 3000. Elle a été merveilleuse, ça a été un territoire d'enfance, donc j'ai quelque part j'ai plaisir à me souvenir, mais dont paradoxalement je ne me suis pas souvenu pendant des années, comme si en fait ces souvenirs étaient pas dignes d'être racontés, parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas me croire ou qu'on ne pouvait pas évoquer des jours heureux dans ces endroits-là. Pendant très longtemps je me suis pas souvenu, mais déjà avec qui se souvenir, parce que d'une part j'ai plus, enfin à part avec mes sœurs, mais mes amis d'enfance, je ne les croise plus, je ne les vois plus. C'était pas du tout un mépris que j'avais par rapport au milieu dans lequel j'évoluais, mais peut-être qu'en tout cas à travers l'école ou à travers des injonctions très inconscientes de mes parents, il y avait l'idée qu'il fallait partir, que l'avenir c'était l'ailleurs, c'était aller à Paris, c'était. J'arrive toujours pas à accepter et à comprendre l'énorme deuil, le fait d'être un transfuge de classe d'une certaine manière, vous condamne à une certaine solitude. Et en fait, c'est comme s'il fallait effacer. En tout cas, tout ce qu'on avait vécu auparavant était totalement effacé.
Alice Diop, qu'on entendait sur France Culture, est-ce que Marine Bonneau, vous sentez proche de ce qu'elle dit, hein, cette idée à la fois d'une enfance heureuse?
J'ai jamais entendu quelqu'un qui est aussi proche de mon discours. C'est incroyable. Je me suis vraiment entendu dans ce qu'elle vient de dire. C'est ce qu'elle a dit, c'est ouf. Parce que c'est complètement ce que je raconte, en fait. Je suis à 100% d'accord et j'ai ressenti ça aussi, c'est pour ça que je me suis senti obligé, je pense, de faire cette série photo, parce que justement, j'avais ce sentiment aussi de... On est tellement presque... On a cette obsession de quitter le quartier, de sauver, de partir, et presque de snober un peu toute cette vie qu'on a accumulée, en fait. Et donc du coup, ce souvenir, il n'est pas archivé, en fait, même dans notre tête. Et je pense que justement, c'est la raison pour laquelle...
récupérer quelque chose.
C'est ça, c'est Alzheimer, le mot est fort et j'en suis parfaitement conscient. On me l'a déjà demandé plusieurs fois, pourquoi un mot aussi fort? C'est quand même une maladie, c'est grave. Et j'avais justement envie d'avoir un titre qui marque l'importance et la violence avec laquelle j'ai ressenti ça, justement, de retrouver tous ces souvenirs. Je me suis rendu compte à quel point, même des souvenirs beaux et importants dans mon enfance, qui font l'adulte que je suis aujourd'hui, ont été effacés au fur et à mesure toute mon enfance en fait, et c'est triste. Je suis content d'avoir Alzheimer aujourd'hui pour pouvoir raconter, me souvenir et partager ce qu'a été mon enfance dans le 93.
Alice Diop, elle dit transfuge de classe. Est-ce que vous qui habitez maintenant à Paris, Marine Bonneau, vous vous sentez comme un transfuge de classe?
Je me suis évadé, mais... Je pense juste que c'est comme un séjour, comme une balade, mais en fait ça me quittera jamais. Je serai toujours rattaché à tout ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en fait. Je peux pas, aujourd'hui j'habite dans le 17e, c'est un quartier que j'apprécie moyennement, mais ça se passe bien, mais je me sens pas à ma place quoi. Je me sens toujours rattaché à chez moi.
Alors, est-ce que l'objectif de l'appareil photo, il a posé un nouveau regard? Votre sous-titre d'Alzheimer, c'est « Sur les traces de mon 93 ». Est-ce que ces appareils photo, d'ailleurs, qui sont des appareils compacts, argentiques, peut-être vous allez pouvoir nous en dire quelque chose de ces appareils, Marine Bonneau, pourquoi ce choix? Vous n'êtes pas sur le numérique, sur des choix
Ça a été un peu c'est un peu la question que je me suis aussi parfois posé. Effectivement, je suis de la génération du numérique, là où tout le monde cherchait l'appareil avec le plus de mégapixels, etc. Moi-même, j'avais mon premier appareil photo a été un numérique. Et en fait, par son volume, premièrement, j'ai préféré repasser sur quelque chose de plus petit, comme un compact. Et j'ai toujours été fasciné par l'objet que ma mère avait toute mon enfance, qui est un compact Konica, voilà, le compact 35 mm que beaucoup de parents dans les années 90-80 avaient pour les vacances. Et j'avais cet appareil photo blanc en tête que ma mère utilisait, et j'avais envie d'avoir la même chose.
Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris vos photos. Vous continuez à prendre des photos comme ça.
J'ai commencé comme ça, juste par curiosité. Je m'en suis cherché un, j'en ai trouvé un. Et puis aux premières pellicules développées, j'ai eu le coup de cœur du rendu. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait une proximité avec la réalité en termes de d'émotion dans les photos, par le grain, par la couleur, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai jamais pu m'en défaire. J'adore ce format de boîtier qu'on peut mettre dans la poche parfois quand ils sont vraiment petits. J'adore le fait de ne pas pouvoir prendre plein de photos et de devoir prendre vraiment l'instant.
Et en même temps, vous revendiquez de ne pas faire spécialement de cadrage, ni de retouche d'ailleurs.
Non, effectivement, je ne retouche pas mes photos. Je ne les recadre pas non plus. C'est le cadrage de la prise.
À l'ancienne.
À l'ancienne, comme en vacances. C'est-à-dire, voilà, c'est un moment, c'est un portrait, c'est un sentiment, et je le prends comme il est, comme il devient, et comme je le ressens à ce moment-là, et il n'y a pas d'autre prise. C'est comme ça, c'est unique, et c'est la recherche aussi de l'authenticité. J'avais envie de transparence toujours avec ce que je suis, avec ce que j'aime et ce que je connais en fait.
Parmi les photos qui sont exposées, il y a ces photos qu'on retrouve aussi sur votre site, Monsieur Bonheur, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ouais. Votre nom aussi sur les réseaux sociaux. Mmh. On retrouve beaucoup de scènes assez conviviales et des photos de nourriture qui reviennent. Et des photos de nourriture dont on a le sentiment qu'elle est assez sociale aussi. Hein. Il y a ces épiceries et il y a les kebabs. Ouais. Pourquoi la nourriture prend une telle place dans vos photos ?
Je trouve que la nourriture, pour moi déjà, c'est la vie parce que j'aime manger. mais aussi parce que, en fait, l'activité, le plus gros souvenir que j'ai dans mon enfance, ça a été beaucoup l'alimentation, en fait. Enfin, on traînait beaucoup et donc du coup, soit on allait jouer au basket ou au foot et puis soit on allait manger. Donc en fait... la nourriture, pour moi, elle fait partie aussi de la vie de tous les jours. Je trouve que la nourriture, elle parle aussi beaucoup d'endroit où on est, de culture, d'origine. C'est quand même un symbole, je trouve. Les plats d'un pays à un autre, d'un coin à un autre, de la France, on a des plats typiques. Pour moi, c'est important de montrer les plats, les plats qui représentent le territoire. Et c'est pour ça que je trouve toujours important de prendre ces photos-là de nourriture, en fait, de lieux où on mange et qu'on voit les ambiances, les décors et le type de cuisine qu'on peut avoir.
Alors, comment ça se passe quand vous organisez des moments, des séances de photos dans le 93 que vous aviez quitté, Marine Bonheur ? Est-ce que vous prévoyez ce qui va s'y passer ? Vous donnez des rendez-vous ? Vous arrivez avec votre appareil photo à la main ? Est-ce que vous avez le sentiment, justement, d'avoir un nouveau regard parce que vous prenez des photos sur ce département de la Seine-Saint-Denis ?
Je pense que c'est mon nouveau regard qui m'a fait prendre des photos et pas la photo qui me fait avoir un nouveau regard plutôt, parce que c'est cette nostalgie qui est née en moi en 2013, du coup à mon arrivée à Paris, qui m'a vraiment donné envie d'y retourner et un peu de chasser ce territoire, quoi, et tout le passé que j'avais dedans. C'est pas vraiment organisé, c'est moi j'ai toujours c'est plutôt spontané, ou peut-être le jeudi ou vendredi à la fin du travail, je me dis bon, en fait, allez, demain je vais aller voir mes parents parce que mes parents y habitent toujours, puis je vais passer 1 heure, 2 heures ou plus dans le quartier après à croiser des potes, ou je les appelle un peu avant, et s'ils sont là, ben on se voit. Et puis il n'y a pas forcément objectif de prendre des photos, c'est juste que j'y passe du temps, et ensuite je prends des photos sur ce qui se passe. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, je vais bien aimer l'énergie qui dégage ce jour-là, et donc du coup je vais leur dire tiens, je te prends une photo aujourd'hui, t'es beau ou t'es belle. Et pareil pour les lieux, il y a une belle lumière, il y a un coucher de soleil, ou on passe devant un lieu qui me rappelle un souvenir ponctuel comme ça, je me dis ah oui, c'est vrai qu'on avait vécu ce truc-là ici, et paf, je vais prendre la photo. Spontané, je pense que c'est beaucoup basé sur le principe d'Instagram, parce qu'Instagram m'a beaucoup influencé aussi par rapport à ça, je pense, sur justement ce truc de prendre sa vie au quotidien, de prendre l'instant, en fait.
Vous êtes arrivé, vous avez pris une photo du micro.
Voilà, exactement. C'est bon, j'ai pas mon appareil avec moi là sur moi, mais je l'aurais certainement pris avec mon appareil sur si j'avais.
Là,
si
c'était le portable.
Là, c'était le portable parce que bon, on a quand même une génération, téléphone, mais.
Vous voulez renumériser vos photos?
Bah malheureusement, j'ai pas le choix, oui, parce que du coup pour la diffusion, et je travaille beaucoup avec mon Instagram, donc Monsieur Bonheur, qui est un peu mon portfolio principal, au-delà de mon site. Et c'est vrai que je suis obligé de numériser tout pour pouvoir avoir ça en numérique et puis pouvoir le mettre un peu partout, sur mon téléphone, le montrer, le présenter à des... Voilà, on peut pas échapper au numérique, je pense, aujourd'hui. C'est très difficile. Puis c'est contraignant.
En même temps, vous gardez ce grain-là. On a le sentiment que certaines photos, qui sont des photos de jeunes, d'enfants ou d'adolescents du 93, c'est la nostalgie, elle vient aussi de cette période-là, peut-être, de l'enfance ou de l'adolescence. Peut-être vous pourriez nous décrire la vie de rêve, cette photo avec des adolescents. Ils sont quatre de dos.
Ils sont quatre de dos.
Ils regardent le ciel.
Et ils regardent le ciel. C'est une des seules photos de toute cette trilogie. Il y en a peut-être deux, trois, mais je les ai même pas en tête. Mais je sais qu'il y a celle-ci qui a été la seule photo que j'ai imaginée avant la prise. C'est une photo que j'ai arrivé à la fin du coup de ce dernier volet qui est Renaissance, qui est basé sur les rêves et l'avenir et un peu cette revanche, parce que le sous-titre justement ça s'appelle Revanche 93 de cette série-là, de ce volet pardon. Et j'avais pas encore le sentiment d'avoir la photo qui parle concrètement de ce que j'avais envie de communiquer dans Renaissance, qui est justement le rapport au rêve, le rapport à l'espoir, le rapport à justement toutes ces difficultés qu'on a quand on est jeune dans un quartier et qu'on rencontre dans son parcours scolaire et en tant que personne. Et pour moi, d'avoir ces jeunes de dos qui regardent le ciel symbolisait vraiment, en tout cas, toute mon enfance à moi, où j'ai passé beaucoup de temps assis sur un muret ou sur un banc ou à l'arrêt de bus avec des potes à discuter du futur, à dire plus tard je serai styliste, plus tard je serai photographe, j'aurai beaucoup d'argent, je serai plus au quartier, j'habiterai sur une île, voilà, des rêves d'enfant quoi, et avec quand même cet aperçu d'immeuble pour savoir où on se situe, les jeunes qui sont en survêt, et puis un âge aussi où ça a été un âge où j'ai vraiment commencé à vouloir être artiste et j'ai vraiment rêvé. J'ai commencé à réellement rêver et cette photo, c'est pour ça que je l'appelais la vie de rêve, parce que c'est une photo qui pour moi évoque clairement ça. C'est quatre jeunes qui sont quatre potes comme moi j'ai pu être il y a quelques années en arrière et qui regardent le ciel comme symbole d'espoir et de futur en fait.
C'est un regard assez tendre que vous posez sur eux, hein. Ce sont des très jeunes adolescents, c'est une photo assez onirique, assez jolie et finalement, votre discours est aussi un discours de dénonciation assez fort. Est-ce que pour vous, la photographie, vous êtes aussi photoreporter, Marvin Bonheur, est-ce qu'elle a ce rôle-là, quand même, encore?
Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans mon travail, oui. Dans mon travail, clairement. Moi, je vois la photographie aujourd'hui comme une arme, comme un pouvoir. C'est magique. Moi, j'adore. Je vois les réactions et c'est au fur et à mesure aussi de mes expositions, de mes posts sur les réseaux sociaux que je vois les réactions, je vois les retours que j'ai là-dessus et je me rends compte de l'impact que ça peut avoir et pour moi du coup ça a pris sens comme ça aussi où je me présente aujourd'hui plus comme un photoreporter parce que j'ai pour but et aussi ce qui m'anime de photographier les pour communiquer des messages, pour changer des idées, pour partager. Et c'est vrai que dans mon travail, la trilogie du bonheur, c'était clairement l'objectif. Ouais, c'était de dénoncer, de montrer, de partager, de contrer des idées, de documenter des choses, quoi.
Je vous propose d'écouter le photographe Henri Cartier-Bresson, qui lui aussi trouvait que la photographie était une arme. Mmh. C'était en 1969.
L'appareil de photo, enfin, c'est une arme.
Contre qui?
Pour la défense de quoi, vous voulez dire?
Oui.
Bon, il n'y a qu'à regarder les photos.
J'espère
qu'elle
ne
parle pas elle-même.
Là, on peut
et
pas
puis en même temps, c'est un confesseur, l'appareil, c'est une couche de psychanalyse, c'est tout ce qu'on veut. Ça dépend comment on s'en sert, mais c'est assez fort. Ça peut être fort. Et justement, d'être ici, nous sommes ici à faire un livre. sur les Français.
Mais vous êtes en Avignon, donc vous êtes de passage en Avignon. Vous avez déjà
on
voyagé dans
on est de passage partout. Malheureusement, c'est ça qui est ennuyeux dans ce métier, c'est qu'on est de passage, on n'est pas vraiment impliqué si on ne considère pas que la photographie puisse être une arme. Si c'est une arme, alors on est impliqué. Sinon, on est juste des voyeurs, puis on s'en va, au revoir et merci.
Vous préférez vous battre en France ou...
Oui, ça c'est la chose la plus importante, c'est de faire un livre sur son propre pays pour ses compatriotes. Là, il y a une synthèse à faire, tâcher de resserrer. On n'en connaît pas assez, on en connaît trop en même temps sur son propre pays. Et puis on est impliqué, c'est pour ça que j'adore faire ce travail.
La France est un pays pauvre, selon vous,
puisque vous l'avez beaucoup parcouru. C'est un pays sous-développé par bien des côtés, puis est très développé humainement par d'autres côtés. Enfin, c'est plein de contradictions, de tensions surtout.
Les migrants qui meurent de la noyade, c'est pas la mer à boire. Le bigot de Ségolène Royal, dans mon répertoire. C'est Dieu qui donne et qui reprend. Belek, à comment tu me réponds? C'est pour ton bien, je te dis baisse d'un ton. J'ai des sous, j'entreprends. Les jaloux, les teutrés, c'est pas nous. Non. On est nombreux, mais on n'est pas mille. Celui qui aura ma peau n'est pas né. Là, ça sème de Florent Pagny. Si tu penses que t'es indispensable, oublie pas, sur Terre, on est plus de 7 milliards. La concu roule dans un corbillard.
Alors, Cartier-Bresson, et puis juste derrière, Kalash Criminel.
Ouais.
Des amis, je crois.
Ouais, avec qui je suis. J'ai beaucoup d'amis en commun avec Kalash Criminel, dont son DJ officiel, qui est un proche à moi, qui s'appelle Kevin.
Et qui a fait partie de vos compagnons de photographie.
Exactement.
Peut-être quelques mots d'abord sur les propos de Cartier-Bresson. Là, on photographie aussi pour ses compatriotes. Il parle aussi de la pauvreté de son pays. C'était en 1969. Est-ce que vous partagez cette idée,
ouais.
Marvin Bonheur, sur la photographie comme une arme? Vous avez commencé à l'évoquer avant.
Ouais, on est complètement d'accord sur la métaphore faite sur l'appareil photo, c'est sur la photo en général, c'est clairement une arme. Moi, je suis entièrement d'accord. Et comme il le dit d'ailleurs, ce n'est pas forcément une arme. C'est comment le photographe lui s'en sert. Il y a des gens qui l'utilisent comme une arme et d'autres qui l'utilisent juste comme un outil, pour prendre des photos.
Alors, lui, il dit, il faut regarder les photos. On regarde vos photos. Quand on regarde vos photos, ouais. On voit, j'y pense à propos du DJ du groupe Kalash Criminel, qui est un musicien de Sevran.
Ouais.
Y a cette femme cagoulée dans vos photos, assise à l'intérieur d'une voiture. Et une femme cagoulée qui, je crois, empruntait la cagoule du DJ du groupe Kalash Criminel.
C'est ça.
Racontez-nous cette histoire, Marvin Bonheur.
C'est une histoire, c'est une photo qui suscite beaucoup la question, parce que on m'a souvent demandé qui était cette fille, pourquoi cette photo avec une cagoule, etc. Pour l'anecdote et l'histoire de cette photo, c'était justement pendant un shooting photo, pour le coup, un peu plus organisé avec Kevin, du coup, qui est le DJ. Il s'appelle Daddy Chulo. C'est un DJ qui est indépendant, mais aussi le DJ de Kalash Criminel. On avait décidé d'utiliser une cagoule parce que c'est aussi l'outil de Kalash Criminel, le rappeur, qui se cagoule tout le temps, donc on n'est pas son visage. On était à Sevran et on se baladait et on prenait des photos un peu avec ou sans cagoule. Et là, on rencontre du coup Samia, qui est la fille derrière cette cagoule, qui est une fille très très belle, très jolie. Et du coup, avec une veste grise, dans une voiture grise, il avait plu un peu avant, donc on avait tous les reflets de l'eau sur la voiture. Et donc forcément, avec mon œil de photographe, j'ai anticipé la photo. Et puis je me suis dit, ah ouais, non mais là, il y a un cadre génial, faut que je prenne une photo. Et puis en plus... J'étais dans une démarche où j'ai essayé de plus en plus de représenter la femme en quartier, parce que c'est quelque chose qui est très peu représenté, je trouve.
Alors, il y en a plusieurs, il y a des moments collectifs, femmes qui s'appellent les meufs, justement,
clics
de meufs qui sont en train de manger dans leur voiture.
Exactement. C'est un passage, en fait, où j'ai pris conscience qu'il fallait montrer plus de femmes aussi, et d'une autre manière que la manière dont on les montrait en général en banlieue. Elles sont aussi très stéréotypées. J'avais envie de montrer un peu toutes ces femmes qui sont parties du quotidien en banlieue. Et donc la première qui a été une photo d'une amie qui s'appelle Sabrina, que j'ai appelée l'indispensable, parce que elles ont une importance importante dans notre société et encore plus en banlieue. Et donc voilà, ce fameux jour, je rencontre Samia, et donc dans cette démarche-là, j'ai envie de la prendre en photo parce que c'est un moment avec des mecs et que justement elle est là, posée avec nous en voiture, et que du coup ça casse même certains clichés. Sauf qu'elle me dit non, qu'elle est pas à l'aise et que elle se sent pas à l'aise de poser avec. Enfin, elle se trouve pas belle en fait. Elle me dit non, mais je suis pas bien là, c'est pas possible et tout. Et donc, j'avais la cagoule avec moi. Et donc, du coup, forcément, je lui dis, attends, le cadre est trop parfait. On va pas changer ta veste avec sur quelqu'un d'autre. Reste comme ça et au pire, mets la cagoule. Donc, elle met cette fameuse cagoule. Je la prends en photo, je développe la photo, je l'expose. Et en fait, au plus, je la montre. Et au plus, j'ai la question de beaucoup de personnes qui me disent, mais cette fille, elle a un regard qui est hyper, hyper beau, qui parle beaucoup et elle a l'air d'être tellement belle. Et du coup, ça m'a marqué parce que c'est la réflexion que je me fais justement, c'est que souvent j'ai pris des jeunes en photo, des gens en photo dans le 9-3, et c'est souvent la remarque que j'ai eue, ils se trouvent moches. Et c'est tellement un truc de bourrage de crâne, de société, de nous caricaturer et nous considérer comme moches et inintéressants que parfois nous-mêmes on a cette image de nous-mêmes alors que finalement ben non, on est tous très beaux, il faut avoir confiance en soi, etc. Enfin, voilà, le discours, je pense qu'on le connaît.
Mais vous en avez un autre discours, puisque vous avez, il y a toute une série qui s'appelle Fierté 93, ouais. Où vous revenez aussi sur la fierté que peuvent avoir les habitants de leur quartier aussi. Ouais. Il y a ce t-shirt avec cet homme de dos, un t-shirt jaune avec ouais. Parquet 93 en noir, 9-3, qui regarde un immeuble. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos qui sont comme anonymées, alors volontairement ou pas, ouais. Comme si les visages les oubliaient, ils apparaissaient de cette manière-là. C'était leur choix, eux. Il y a aussi des visages que l'on peut voir.
Bien sûr. Moi, j'ai toujours envie de montrer les visages. Après, c'est vrai que c'est une constatation que j'ai faite pendant thérapie où justement, au plus je prenais vraiment souvent des portraits, je rencontrais des amis et des amis d'amis. Et j'ai eu plusieurs fois le retour de personnes qui me disaient qu'ils se sentaient pas à l'aise avec leur image, qui aimaient pas leur environnement, qui trouvaient ça pas forcément intéressant de les prendre eux en photo et leur environnement, l'architecture, etc. Et donc ça a été le cas du coup pour Samia et aussi pour cette photo 9-3 de dos. Cette photo 9-3, pour le coup, c'est un peu la réponse quelque part de la photo de beauté intérieure, qui est la photo de cette fille cagoulée du coup. Et en fait, elles se répondent ces deux photos parce que d'un côté, on a justement la photo de beauté intérieure de Samia, qui évoque justement par son titre beauté intérieure le fait que, en fait, il faut aller au-delà de l'apparence physique que certains jeunes de quartier ont et voir le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur, et du coup, et on découvrirait la beauté que beaucoup de ces jeunes ont en fait dans 93 dans les quartiers populaires.
C'est aussi le regard qu'ils posent sur eux-mêmes.
Et le regard qu'ils posent sur eux-mêmes, il faut aussi, je pense, les inciter, les motiver, les booster à prendre conscience de la beauté qu'ils ont en fait. Et à la fois on a Fierté 93, donc cette photo 9-3 de dos, en l'occurrence c'est mon petit frère qui est donc le fameux Peter, qui est mon petit frère qui est de dos avec ce t-shirt 9-3, et cette photo elle représentait, j'avais vraiment envie de prendre cette photo parce que on a pour beaucoup jeunes du 93 et même d'autres départements, on a toujours tous eu, je pense au moins une fois dans notre vie, eu un t-shirt avec un 93 ou marqué 93 au Tipex sur son sac à dos. Parce qu'il y a cette espèce de fierté quelque part comme une défense de justement tellement sentir l'extérieur du territoire qui a pas forcément une bonne idée de nous et une idée très péjorative de nous.
Il y a une réappropriation.
De porter encore plus ses couleurs et de crier encore plus fort on nous aime pas, c'est pas grave, nous on est fiers d'être du 93 et c'est chez nous, c'est notre pays, le reste s'ils nous acceptent pas, c'est pas grave. Nous en tout cas, on aime notre endroit, on aime le 93, on aime notre quartier, notre rue, notre immeuble. Et il y a vraiment ce sentiment de fierté et c'est vrai que cette photo pour beaucoup de résidents du 93, elle a fait un grand succès. Je l'ai déjà vendue à principalement des jeunes du 93 parce que ça les rend encore plus fiers.
Merci Marvin Bonheur, je rappelle que votre travail fait partie de l'exposition Circulation du Festival de la Jeune Photographie Européenne au 104 et c'est jusqu'à dimanche et vos photos sont aussi au magasin généraux de Pantin dans le cadre de l'exposition BAN jusqu'au 16 août.
France Culture, la grande table d'été par Maëlys Bessery.
Je croise des figures en des hybrides. Je traverse un parc. ma clinique, Bel Air.
Et c'était Hervé Bel Air, extrait de son premier album Hyper, signé chez Initial. La Grande Table continue en compagnie d'Olivier Meyer, directeur de Seine-Saint-Denis Tourisme et responsable de l'été au canal et de l'été solidaire, et de Samantha Vergati, fondatrice et directrice générale de l'association Altrimenti, partenaire aussi de l'été du canal. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Olivier Meyer, quelques mots d'abord sur l'été solidaire, extension du festival L'été du canal qui fête sa 13e édition cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'a été organisé cet été solidaire suite à la pandémie de coronavirus, je crois?
Oui, on était au mois d'avril, à un moment où on boucle normalement la programmation de l'été du canal. À se dire, on est dans un paradoxe, c'est que si on arrive à organiser des choses, il faudra qu'on le fasse pour moins de monde, qu'on réduise les jauges, c'est-à-dire le nombre de publics qu'on peut accueillir, que ça soit à bord des bateaux pour les croisières ou pour les ateliers. Et en même temps, notre manifestation s'adresse à une population qui souffrait plus que les autres et plus que d'habitude, non seulement de la pandémie, mais des conséquences sociales de cette pandémie, avec beaucoup de gens qui, on le savait, n'allaient pas pouvoir partir en vacances. Et donc on s'est dit, eh bien, il faut qu'on trouve une solution pour accueillir néanmoins beaucoup de monde, mais peut-être pas seulement les week-ends de l'été, comme on le fait d'habitude avec l'été du canal, également pendant la semaine, à la fois dans les mêmes lieux, sur les mêmes bateaux, mais aussi au cœur des quartiers, là où on peut rencontrer les gens qui sont dans cette souffrance et qui sont dans ce besoin d'activités de loisirs, de loisirs récréatifs, de moments d'évasion, en fin de compte. Et donc, on s'est dit, on va étendre notre été du canal aux acteurs du champ social, c'est-à-dire tous ces volontaires, ces bénévoles qui travaillent dans des associations.
Alors, c'est les maisons de quartier, c'est des associations liées à la ville, mais aussi la Croix-Rouge, le Secours Populaire. Voilà. Toutes ces structures-là qui se sont associées justement à la manifestation?
Absolument. Et puis des structures culturelles qui nous ont dit, nous aussi, on aimerait bien apporter notre contribution. Donc les ateliers Médicis nous ont mis en relation avec des artistes qui animent des mini-résidences dans les quartiers, à la Courneuve, autour de la photo justement, ou à Pantin, dans la cité des Courtilières, autour du tatouage. Donc sur des activités très variées, avec tous ces acteurs, on a construit une programmation. Et puis le département de la Seine-Saint-Denis, de son côté lui-même, s'est dit, il faut qu'on soutienne toutes ces structures et qu'on apporte à la population de Seine-Saint-Denis une offre de loisirs très étendue, très étoffée. Et c'est cette conjonction qui a créé le bel été solidaire de la Seine-Saint-Denis qui vient compléter notre manifestation.
Est-ce que vous avez eu, Olivier Meyer, des aides plus importantes? On sait à quel point le département a été lourdement touché par la pandémie. Est-ce qu'il y a eu une aide apportée, une volonté politique et financière, économique qui l'accompagne pour aider à cette manifestation de l'été solidaire qui est, comme vous le disiez, aussi culturelle que sociale?
Voilà, on a eu des aides assez conséquentes. Le département a débloqué, je ne sais plus combien, mais plusieurs centaines de milliers d'euros pour financer des associations, des projets. Et on a pu développer ce programme de cette façon-là. Mais la volonté de nos élus dans le département, mais aussi des municipalités qui participent à nos côtés au fait d'approcher les populations les plus en difficulté pour qu'elles puissent y prendre leur place, la mobilisation a été très forte.
On va écouter l'architecte Roland Castro parler de ces canaux du 93, c'était le 17 décembre 2010.
Il y a un canal qui a une caractéristique en plus, c'est une eau qui bouge pas beaucoup. Qui a une mélancolie singulière, enfin qui est pas pareil qu'un fleuve, un canal. Il y a un effet miroir énorme. Il y a ce que j'appelle un des plus beaux ciels de Paris. Quoi. Il y a une occasion poétique absolument magnifique. Et comme c'était un propriété de la ville de Paris, ça n'a jamais été un enjeu de projet pour personne. Il faut imaginer qu'on se met au milieu du canal et que c'est lui qui devrait être le centre de la composition de tout ce qu'il faut faire en Seine-Saint-Denis au nord. Hein. On pourrait continuer à faire des tas de petites maisons de 5 étages, des immeubles chicos, mais c'est franchement pas à l'échelle. Il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. Il faut des grandes probablement des endroits ouverts, libres, des endroits où on peut faire des jardins suspendus très haut, enfin je veux dire qu'on peut faire des, y compris des tours, mais d'une autre manière, enfin, des lieux très hauts, très concentrés, des compacités très fortes, et en même temps, voilà, la grande étendue, la compacité possible. Il faut imaginer que c'est ce ciel-là qui est un des éléments fédérateurs de la Seine-Saint-Denis.
Alors ça, c'était en 2010, Olivier Meilleur. Depuis, les canaux sont peut-être un peu plus réinvestis. En tout cas, c'est autour de ces canaux-là que s'organisent aussi vos manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Roland Castro ?
Je partage pas forcément toutes ces options d'aménagement et d'urbanisation, mais par contre, il dit des choses très vraies, c'est que cette irrigation extraordinaire que constitue le canal de l'Ourcq, le canal Saint-Denis, la Seine et la Marne aussi de part et d'autre du département sont des éléments structurants très importants autour desquels peuvent se fédérer plein de choses, autour de la qualité de vie, autour des loisirs, autour de la circulation. Et avec l'été du canal en 2007, le comité départemental du tourisme alors s'est engagé avec beaucoup de volonté en croyant qu'il y avait une place pour ces éléments fluviaux. À l'époque, beaucoup nous prenaient pour des extraterrestres, hein, parce que c'était quand même des zones, hein, les abords du canal de l'Ourcq. Et puis, la transformation est en train de se faire, elle est tout à fait spectaculaire, et l'été du canal est l'occasion, au détour d'une balade en vélo ou bien d'une croisière fluviale, de découvrir la profondeur de ces transformations, qui est encore en cours, hein, qui va durer...
Alors, de l'espace et des espaces, d'ailleurs, qui sont mis en valeur de manière plus large pendant tout le reste de l'année aussi. Hein. Je pense aux quatre grands sites historiques du 93, notamment les puces de Saint-Ouen, le Stade de France, la Basilique Saint-Denis et le Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Ces espaces-là, ils sont aussi mis en avant toute l'année. Ça s'inscrit, l'été du canal s'inscrit dans cette continuité-là de valorisation.
C'est tout à fait ça. Il se trouve que quatre des principaux sites touristiques parisiens sont en Seine-Saint-Denis. Le Stade de France, vous les avez cités, le Musée de l'Air et de l'Espace, les puces, la Basilique, évidemment, dont on ne dit jamais assez à quel point elle a une place encore plus importante, peut-être dans l'histoire de France, que la cathédrale Notre-Dame, mais qui n'est pas suffisamment visitée. Donc on promeut ces sites et ces sites ne cessent de renouveler leur offre, le contenu des visites qu'ils proposent. Mais naturellement, ce qui fait l'attrait, enfin, ce qui donne à la Seine-Saint-Denis une dimension touristique et d'attractivité très forte, c'est tout ce que disait tout à l'heure Marvin Bonheur, c'est-à-dire que c'est l'humain. C'est cet humain, c'est ces souffrances qui sont transformées en solidarité, c'est le stigmate qui est transformé en résilience, et tout ce qui permet la rencontre. C'est pour ça qu'au cœur de nos projets, il y a aussi beaucoup des ateliers de pratique, des rencontres avec des animateurs, des volontaires qui pensent le futur, qui pensent la nature en ville, qui pensent un autre rapport avec l'alimentation, qui pensent la fabrication avec des objets de récupération. Et donc, les balades urbaines, les visites de quartier, la découverte de la transformation, formation de la ville, et les rencontres humaines sont vraiment sont le sel de ce territoire, et c'est ce qui lui donne beaucoup d'attractivité.
Alors parmi les ateliers, Samantha Vergati, il y a celle organisée par votre association contre le gaspillage alimentaire. Racontez-nous de quoi il s'agit très exactement.
Absolument, merci. Altrimenti, une association que j'ai créée en 2016, et qui lutte contre le gaspillage alimentaire et pour une alimentation saine, durable et de qualité, accessible à tous. Donc on est parti du constat que l'alimentation est un peu la synthèse de plein d'enjeux sociétaux et qui se trouve aussi au croisement de dysfonctionnements, de déséquilibres et aussi de plusieurs disciplines. C'est quelque chose, l'alimentation, qui touche de notre côté l'environnement, le changement climatique, qui touche le social, qui touche la culture.
On parlait de l'espace urbain, des jardins suspendus. Roland Castro parlait de jardins suspendus.
Qui touche l'espace urbain. Donc notre association, comment accomplit sa mission de promouvoir une alimentation anti-gaspillage saine et durable pour tous à travers la mise à place d'actions pratiques. Actions pratiques qui se traduisent par des animations, des ateliers culinaires, des balades botaniques qui sont associées à des ateliers culinaires dans le programme Rien ne se perd, tout se cuisine.
Et dans le cadre aussi du festival, il y a ce lieu dont vous pourriez nous dire quelques mots, la conserverie en Seine-Saint-Denis.
Alors, la conserverie, c'est un projet que
qui va ouvrir tout à fait à la rentrée.
L'année dernière, j'ai eu une nouvelle idée. toujours dans la continuité du projet de Altrimenti, qui en italien ça veut dire autrement. Et il y a aussi un petit jeu en français entre le tri et l'alimentation. Donc l'année dernière, j'ai eu une nouvelle idée qui vise à augmenter et à booster l'impact de notre structure à travers aussi l'évolution des modes de production. Donc comment on peut se positionner sur des nouveaux modes de production tout en impactant l'environnement et en créant de l'emploi pour des personnes en difficulté. La réponse sont la trouvée dans cette conserverie qui s'appelle Altripasti. La conserverie produit des conserves qui sont préparées en Saint-Saint-Denis à partir de produits déclassés, donc des légumes qui étaient destinés malheureusement à pas être utilisés. Et qui sont transformés selon l'art de la cuisine italienne, donc mon origine, je suis italienne, et qui sont après réinjectés dans le système économique avec un but social de créer et de renforcer des emplois locaux pour des personnes qui sont en difficulté,
donc
notamment en Seine-Saint-Denis.
De réinsertion aussi qui Absolument. Passe par cet emploi-là. L'économie aussi de la Seine-Saint-Denis a été durement impactée pendant cette période. Parmi ces ateliers, ces animations que propose le festival, il y a, vous l'avez évoqué, des croisières fluviales avec peut-être une dimension aussi de street art qu'on peut observer depuis ces croisières-là, hein, des croisières avec des expositions artistiques aussi que l'on peut croiser.
Mais de fait, la périphérie de Paris, la Seine-Saint-Denis en l'occurrence, est un berceau du street art, un berceau du graphe, un berceau du graffiti. Et aujourd'hui, les street artistes, on leur passe des commandes pour des œuvres et des fresques magnifiques qu'on va découvrir. Mais parmi les croisières qu'on propose, il y en a une dont le thème, c'est effectivement la découverte du street art. Parce qu'on a sur le linéaire qui va du bassin de la Villette jusqu'à Noisy-Bondy, vous avez toutes sortes de surfaces qui ont été traitées selon les différentes écoles du street art. On va trouver le fameux mur de Bobigny où il y a du graphe, du lettrage qui se renouvelle perpétuellement parce que les groupes, les jeunes y passent, les artistes s'y déploient constamment. Et puis vous avez des grandes fresques qui sont absolument magnifiques, que les habitants du territoire adorent, et ça fait partie des thèmes de croisière proposés.
Alors il y a aussi des concerts flottants. Je vous propose d'écouter Bande de filles, un jeune collectif DJ set féminin.
On est parti avec Bande de filles pour 2 heures de son. On espère que ça va vous plaire. Voilà, restez connectés.
Alors, Bande de filles, hein, qui le 23 août, en partenariat avec le 6B, ce site atypique de création et de diffusion artistique et culturelle qui a ouvert ses portes en 2010 sur les quais de Saint-Denis, le long du canal, ce projet va accompagner la transformation du quartier Gare Confluence dans la ville de Saint-Denis. Ils seront donc au concert, ce sera l'un des concerts flottants, Olivier Meillard.
Oui, c'est le prochain concert flottant, c'est une des nouveautés issues de la crise du Covid d'ailleurs, parce qu'au mois d'avril, quand on s'est dit on va pas pouvoir mettre de passagers dans les bateaux, eh ben on va faire autre chose, on va mobiliser les bateaux pour accueillir les artistes et le public se rassemblera sur les berges. Finalement, on fait quand même des croisières, puisque je viens d'en parler, mais on a gardé ce concept, on l'a développé et on va accueillir 6 concerts flottants pendant cet été. Le premier a eu lieu le 26 juillet. On va terminer dans un partenariat avec la Dynamo de Banlieue Bleue le 13 septembre. Et entre-temps, on va avoir de la musique classique avec un quatuor à cordes de l'Orchestre Symphonique Divertimento. On va avoir les jeunes talents de l'Académie Jaroussky. On va même avoir du chant a cappella avec Sequenza 9-3. Et puis Bande de filles le 23 août.
Alors, parmi les balades, vous avez évoqué les balades botaniques, Samantha Vercati, dont l'idée, c'est aussi une sensibilisation citoyenne.
Absolument. Le socle de notre association est de sensibiliser le plus grand nombre et le grand public et aussi les professionnels à une alimentation différente avec une approche innovante qui arrive à lier la réduction des déchets à une nouvelle culture alimentaire tout en passant par des enjeux sociétaux et sociaux.
Donc comment ça va se passer? Il va y avoir des botanistes, il va y avoir justement des propositions de cueillettes de plantes sauvages.
Tout à fait, nous avons créé ce dispositif assez inédit sur le territoire. La découverte du territoire, donc des parcs de la région parisienne, notamment de la Seine-Saint-Denis, avec la cueillette de plantes sauvages comestibles, associée ensuite, suivie d'ateliers culinaires qui sont conçus avec des chefs, des nutritionnistes et aussi accompagnés par des botanistes, à partir de fruits et légumes qui étaient destinés à ne pas être utilisés, donc à être jetés pour des questions, comme disait Marvin, d'apparence, d'esthétique, un peu de préjugés, de méconnaissances.
Merci
beaucoup. Donc on redonne de la valeur.
Merci, merci Olivier Meilleur et Samantha Vergati. Je rappelle que l'été du canal et l'été solidaire se tiennent à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis jusqu'au 20 septembre et les ateliers Altrimenti aussi. Tout de suite, la fiction imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD en partenariat avec le Théâtre de la Ville en soutien à la création et aux auteurs. Aujourd'hui, le bon côté des choses.
Le bon côté des choses, une fiction écrite par Nathalie Kuperman.
À table! Tu me passes le sel? Merci. Ah bon? Tu trouves que c'est trop cuit? Moi, je me rends pas bien compte. Je trouve que c'est... Oui, t'as raison, un peu trop cuit. T'es sûre? Les infos pendant qu'on mange? Bon, après tout...
Ivre, qu'est-ce que mourir? Toutes ces questions nous plongent dans la nécessité d'entrevoir en chacun de nous la possibilité de ne vivre que pour soi-même. C'est un véritable challenge, bien sûr, puisque notre société a longtemps reposé sur l'idée que nous étions dépendants les uns des autres, affectivement, économiquement, politiquement. Une forme d'égoïsme est devenue indispensable à la bonne marche de
J'aurais
notre société.
J'aurais dû mettre plus d'oignons. Certes, ça sucre un peu l'oignon. Aïs et Paul se plaignaient toujours qu'il y avait trop d'oignons, alors j'ai allégé les doses pour leur faire plaisir, mais... Depuis qu'ils ont quitté le nid, je continue à mettre moins d'oignons, un peu comme s'ils étaient encore là. C'est idiot, bien sûr.
Nous sommes enfin débarrassés de ce sentiment extrêmement, affreusement culpabilisant. Les gens crèvent, nous les voyons crever, et même si nous voulions les aider, nous n'en avons plus.
Allô?
Bonjour, c'est l'association Prenez Soin de Vous. Hier, vous nous avez confirmé que tout se passait au mieux pour vous. Est-ce toujours le cas?
Oui.
À demain alors, et portez-vous bien.
À demain. Oh, tu veux vraiment pas qu'on éteigne la radio? Et puis tous ces appels, tous les soirs depuis 2 ans. J'en peux plus. Ah ouais? Et tu trouves ça normal, toi, qu'ils t'embarquent pour te faire passer des tests psychologiques sous prétexte que tu n'arrives pas à ne t'intéresser qu'à toi?
Comment je vais faire, moi? Hein? Si tu ne me réponds pas? Tu me quittes brutalement comme ça parce qu'en haut lieu, on en a décidé ainsi?
Nous sommes enfin débarrassés
de ce extrêmement... Mais non, je pleure pas! Mais tu vois bien que je t'en veux pas puisque je continue à te demander ton avis. Ah bon? Tu veux que je monte le son?
Ne s'occuper que de soi.
Et en plus, tu vois, j'obéis.
La solution. J'en veux pour preuve les migrants, parce qu'enfin, plus personne ne s'intéresse à eux. Les migrants cessent de se noyer en Méditerranée. C'est un phénomène extrêmement étrange. Dès qu'on cesse de s'occuper des autres, les autres s'occupent très bien d'eux tout seuls. C'est le bon côté des choses. Prenez soin de vous et uniquement de vous. Nous allons, grâce à vos appels, établir la liste de toutes ces choses qui nous paraissaient essentielles et qui ont, comme par miracle, cessé de l'être. On se retrouve juste après la pause musicale.
T'as pas fini? Je débarrasse ton assiette? On va s'aimer tellement tu es belle, on va jeter
Je crois que nous avons Noémie en ligne. Noémie, vous êtes en ligne, on vous écoute. À quelle chose essentielle avez-vous renoncé? Noémie, vous m'entendez? Ah, je crois qu'on a un problème de connexion. Ce sont les joies du direct. C'est Jérémy, maintenant, qui est en ligne. Jérémy, on vous écoute. À quoi avez-vous renoncé, Jérémy?
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, Jérémy.
Moi, j'étais garagiste.
Ouais.
J'adore les moteurs, vous voyez?
Très bien, mais les voitures roulent toujours. Alors dites-nous, Jérémy, à quoi vous avez renoncé?
J'ai pas envie de le dire.
Jérémy, vous nous faites perdre du temps. Là, le principe, c'est de partager avec nos millions d'auditeurs ce à quoi nous avons dû renoncer pour le pire, mais surtout pour le meilleur.
Je vous fais perdre du temps, là? On a tout notre temps, au contraire. On est broyé par ces heures qui nous remplissent d'effroi depuis que les mesures ont été prises. Séparer en deux la population. Quelle bonne idée! Une moitié fait tourner le pays, l'autre pourrit dans l'isolement. On nous nourrit comme des bêtes, on nous surveille, on nous rassure. Plus personne n'ose ouvrir sa gueule. Ah ouais, c'est vrai, plus personne n'est au chômage. Un véritable tour de magie. Mais on en vient à regretter.
Merci, merci infiniment Jérémy pour votre témoignage. Le bon côté des choses vous a permis de vous exprimer vous aussi. C'est la preuve que nous sommes encore en démocratie. Je crois que nous avons maintenant Pauline en ligne, c'est bien ça Pauline?
Bonsoir.
Pauline, pouvez-vous nous faire partager ce à quoi vous avez renoncé, avec succès j'espère?
Ben moi avant mon truc c'était les mecs, j'adorais pêcher dans les soirées. Grâce aux mesures qui ont été prises, je me suis maquée. Avec le dernier, puisque j'avais plus le choix. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert que l'habitude déclenchait l'amour. Mon mec a été choisi pour continuer, il est financier dans un grand groupe. Et moi, comme j'étais comédienne, j'ai dû rester à la maison. Mais franchement, vu que je galérais pour trouver des rôles, je me dis que tout ça, ça m'a permis de voir la vie autrement. On se Skype, on fait l'amour par caméra interposée, et on a un rêve, avoir des enfants. Bon, la PMA, j'étais pas contre, hein, et maintenant, je suis à fond pour, parce que bah, comment on fait sinon? Après, c'est compliqué, hein. Comment élever un enfant?
Merci, merci infiniment, Pauline. Les mesures de l'après-crise, on vient de vous entendre, vous ont fait du bien, socialement et affectivement. C'est un bel exemple du bon côté des choses. Sans transition,
tu veux bien qu'on éteigne, s'il te plaît? Je t'en supplie.
Jordan.
Ah, non, non. J'éteins juste après. Cette chanson, je veux l'écouter. On dirait qu'ils connaissent mes goûts. Et si tu n'existes pas,
dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'aimer dans un monde sans
toi. Pourquoi t'es plus là, salopard?
Sans espoir et sans regret.
Je t'invite à ma table tous les soirs et toi, espèce d'enfoiré, tu n'as pas résisté à l'appel des sirènes. T'as préféré rejoindre l'autre moitié pour faire respecter une loi qui me condamne à la solitude à vie. Pour que l'économie reprenne, hein, as-tu justifié? Et avant de partir, tu as eu le culot de m'embrasser sur le front comme si j'étais une gamine qui n'y comprenait rien. Mais de quelle économie tu parles, imbécile? Ah!
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Allô?
Prenez soin de vous en ligne. Pardon de vous rappeler ce soir, mais on nous a signalé des cris venant de chez vous.
Les voisins m'ont dénoncé, c'est ça?
Ne voyez pas les choses ainsi. Vous ne vous dites pas que vos voisins nous ont alertés pour votre bien?
Mais tout le monde s'en fout de mon bien, non? On n'est pas censé ne penser qu'à sa gueule?
Madame, que vous n'avez pas compris les règles. Les gens qui nous ont prévenus l'ont fait pour une bonne raison. Ils pensent que quelqu'un qui est incapable de prendre soin de lui est forcément inapte à prendre soin des autres. Il représente, par voie de conséquence, un danger.
Ils ont peur pour eux. Mais je ne les connais même pas. Ils pensent que je suis dangereuse parce que j'ai chanté un peu fort. C'est ça? Mon mari a rejoint la moitié forte. Mes enfants aussi. Et je ne vois plus personne. Et je n'aurai pas le droit de chanter?
Vous n'êtes pas satisfaite des produits qu'on vous livre chaque jour pour que vous puissiez cuisiner? Ne recevez-vous pas une fois par mois un livre pour vous distraire? Ne pouvez-vous pas écouter tranquillement la radio nationale? Et pour tous ces services, payez-vous quelque chose? Non. Vous ne payez rien parce que l'autre moitié travaille pour vous. Alors remerciez-les. Remerciez vos voisins grâce auxquels nous sommes en train de vous expliquer la logique d'un système que vous n'avez visiblement pas intégré. Prenez soin de vous, vous appellera demain, comme prévu. Si vous ne vous sentez pas mieux, vous devrez nous le dire.
D'accord.
Très bonne soirée, madame. Portez-vous bien, à demain.
Qu'en penses-toi ? Tu crois que je suis une personne à risque ? Je suis d'abord à risque de quoi ? Tu peux me le dire ? T'es pas causant ce soir. Mais je comprends. On ne peut pas sauver le pays et répondre à mes questions idiotes. Tu te souviens quand même des abeilles qui nous avaient attaqués quand on avait fait l'amour dans un champ ? On n'avait pas vu qu'on était sur le champ d'un apiculteur. Je t'aime. Je t'aime. Et si jamais je ne t'aimais plus, je ne le saurais même pas. C'est peut-être bon de ne pas savoir. Je ne sais peut-être plus qui je suis, mais... comment en être sûre ? Demain, je leur dirai que je vais bien. Demain est un mensonge, alors je verrai comment je me dépatouille avec ça. Une blanquette de veau pour le déjeuner, ça te tente ? Le jeudi, c'est veau. La viande, ils ont pas arrêté.
Après tout, ils ont raison. On ne manque de rien. S'occuper de soi. Et ce que tu fais ce soir, c'est bon remède.
Ça t'embête, hein, tout ce que je raconte. Tu veux que je rallume ?
Un tout petit instant, et avant de reprendre notre série de témoignages, Le Bon Côté des Choses vous offre une pause musicale avec Les Pierres qui Roulent. Je parle bien sûr des Rolling Stones. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
Nous avons eu à déplorer hier soir une 900 064e victime par voie de suicide depuis le début des mesures mises en place pour préserver le bon fonctionnement de notre économie et de notre bien-être. En s'auto-détruisant, elle nous libère du poison qui menace notre société. Mais grâce à elle, comme à tant d'autres, nous arriverons enfin à rétablir l'équilibre qui nous permettra de sortir du gouffre. Nous allons maintenant prendre l'appel d'Olivier. Olivier avec qui, exceptionnellement, j'ai pu échanger avant son passage à l'antenne. Il va nous livrer un témoignage poignant sur la façon dont il a su rebondir après une rude épreuve. Et son histoire s'inscrit dans l'esprit du bon côté des choses. Olivier ? Olivier, vous êtes là ? Des millions de gens vous écoutent. Vous êtes là ? Je crois que nous avons un problème de connexion. Un gros problème de connexion.
Le Bon Côté des Choses de Nathalie Kuperman. Réalisation Laurence Courtois. Retrouvez le générique complet sur franceculture.fr.
Et vous retrouverez un prochain épisode de La Fiction Imagine demain, lundi. C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, l'incendie du Crédit Lyonnais de Paris.
sommes ici au kilomètre 275 de notre périple en remontant la Seine. Kilomètre 275 depuis Source-Seine, près de Dijon, puisque nous allons jusqu'au Havre. Et au kilomètre 275, c'est exactement le 21 boulevard des Italiens à Paris. Nous sommes devant une banque qui a été à un moment une des plus grandes banques du monde, qui était le Crédit Lyonnais, avec une salle du conseil d'administration absolument magnifique, avec les bustes des déesses représentant Paris, New York, Alexandrie, où il y avait une gigantesque bourse du coton. Crédit Lyonnais qui avait été fondé par Hubert Germain et qui a donné le ton véritablement aux activités de banque et de finance en France pendant à peu près un siècle et demi. Et vous me direz, pourquoi est-ce qu'une banque nous intéresse ? Une banque qui n'est pas le lieu a priori le plus poétique. Nous avons vu les forêts sombres de la Bourgogne, l'endroit où est né le comte du Graal, la maison de Rachy à Troyes et d'autres choses infiniment plus poétiques. Eh bien si, il y a une poésie des banques, il y a une poésie du monde moderne que Sandrars et Apollinaire ont illustré. Apollinaire en parlant de cette petite rue industrielle qu'est la rue Aumontierville, en parlant de l'aviation, Sandrars en parlant de la vie dans les profondeurs des paquebots. Il y a une poésie des banques et le Crédit Lyonnais a une double poésie. Elle a une double poésie parce que ça a été l'une des plus grandes banques du monde et parce que c'est là où véritablement ont eu lieu les grands retournements des années 80, la faillite du Crédit Lyonnais d'abord et l'incendie du Crédit Lyonnais ensuite. Au départ, ce que nous voyons là, nous sommes devant une grande façade dans ce quartier des banques où il y a également la façade italo-alexandrine, très poétique de l'ancienne banque de Paris, où il y a le monde, l'ancien siège du monde qui est à deux pas de là où nous sommes. Et il y a cette façade qui a été créée par Bouvins dans un style qu'on appelle le style néerlando-renaissance, je ne sais pas trop pourquoi, et qui est une façade quand même assez monstrueuse de ce qu'était à l'époque le temple de l'argent, qui était effectivement l'une des premières banques du monde. Un auteur de l'époque a comparé, dans les années 1900, les grandes places financières à une sorte de clergé mondial. C'était une époque où au fond, la banque ressemblait à une sorte de religion, avec ses clergés autocéphales, avec ses paroisses, avec l'église de New York, l'église de Londres, l'église de Paris ou l'église de Berlin, et à l'intérieur des clergés divisés, pour la France par exemple, en ordre majeur, en ordre mineur, avec des règles complexes, les agents de change représentant le clergé supérieur, les coulissiers, les remisiers représentant les ordres inférieurs. Et ce monde, qui était un monde fixe et stable, le monde de l'épargne, le monde du franc or, le monde de la France prêtant de l'argent à l'univers entier, à la Russie en particulier, ce monde pratiquement a duré au travers des guerres jusque dans les années 80. En 1980, tout change. 80, vous vous en souvenez, sont les années où, pour parler comme Sartre, le monde moderne décide véritablement de faire sa propre propagande. C'est l'extravagant défilé du 14 juillet 89 de Good, où Good fait défiler toutes sortes de créatures qu'on dirait sorties des films Kodak sur les Champs-Élysées. C'est les compétitions nationales de chant de coq à Pompignan. C'est la course grotesque des voleurs de feu de Charleville à Paris, organisée par le ministère de la Culture. Ce sont les années 80. Tout change et on bascule dans le monde de la fluidité. C'est le monde de ce qu'on a appelé, assez drôlement d'ailleurs, le Vatican II de l'argent. C'est-à-dire que l'informatique change complètement les mœurs, les ordres disparaissent, on supprime la compagnie des agents de change, des salles de marché gigantesques se créent, c'est le début de la mondialisation, une fluidité générale s'empare de tout. Et c'est l'époque où, au Crédit Lyonnais, on transforme l'intérieur, qui était jusque-là un intérieur très fixe, avec des guichets en acajou, avec des coulissiers, avec des gens qui détachaient des coupons, avec des gens qui venaient percevoir leur pension en fil. Tout ceci s'informatise et donc l'intérieur du bâtiment, et ça va être une des causes de l'incendie, l'intérieur du bâtiment est totalement changé. Il y a une salle des marchés absolument magnifique qui se crée. On fait une sorte de jardin d'hiver avec une verrière kitsch et moderne. Le bureau du président est flottant sur les angles et communique une espèce d'étrange impression de mouvement. Et donc, ce sont les années 80, des années où le monde moderne s'ébahit de lui-même dans une sorte de débauche de thunes et d'actions. Et en ce qui concerne la banque, c'est l'époque où le Crédit Lyonnais, en fait, banque publique, se lance dans des activités d'époque qui sont des activités spéculatives, finançant des aigrefins, rachetant la MGM, envoyant des fondés de pouvoir discuter avec Sharon Stone et jouer avec elle au jeu de la vérité dans la nuit sombre d'Hollywood. Et c'est aussi à ce moment-là qu'intervient, au fond, une grande faillite socialiste de banque, puisque d'habitude, on a plutôt l'habitude des faillites capitalistes, et ça, c'est une grande faillite socialiste, puisque à l'époque, le Crédit Lyonnais appartient à l'État. Après cette faillite, dans la nuit du 4 au 5 mai 1996, se passe quelque chose d'assez extraordinaire, comme un
coup final du sort, c'est l'incendie du Crédit Lyonnais. La salle des marchés prend feu, la verrière en plomb, qui est absolument magnifique, commence à fondre. Le plomb fondu empêche les pompiers d'approcher. On appelle le président du Crédit Lyonnais, Jean Perlevade, qui arrive et devant ce dernier coup du sort, s'évanouit et tombe en catalepsie sur le trottoir. Pendant que sur le trottoir rôde également un assez grand nombre de gens, tous les gens qui essayent de récupérer des objets dans les coffres. Ce qui est extrêmement pittoresque et romanesque, c'est qu'il y avait dans les coffres des Picasso, des Matisse, des Godemiché, des cassettes pornographiques, du Gonzo bourgeois local, des correspondances douteuses, et les gens inquiets se demandent ce qui va arriver à tout ça, et en fait font le cercle à l'intérieur du Crédit Lyonnais pendant que les pompiers ne parviennent pas en réalité à éteindre l'incendie. Et je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque je revenais du Caire en taxi, je vois l'énorme fumée noire qui s'élève derrière le Sacré-Cœur. Et je demande au chauffeur de taxi, mais qu'est-ce que c'est ? Et le chauffeur de taxi me répond, elle brûle, la banque maudite. Alors ça nous laisse à la fin nous poser la question de la fonction des incendies. C'est une question célèbre depuis que Léon Blois s'est interrogé sur ce que Dieu avait bien voulu faire en faisant brûler le bazar de la Charité, qui a brûlé dans les années 1890, on a appelé ça le crack des hommes du monde, en entraînant dans les cendres des dizaines d'héritières et de grandes fortunes. Et Léon Blois avait expliqué qu'il avait flambé parce que Dieu avait été fort mécontent du fait de voir accoler deux mots aussi dissemblables, le mot épouvantable de bazar, le mot abject de bazar, et le mot grandiose de charité qui signifie amour. De même, juste derrière nous, il y a l'opéra comique, et l'opéra comique a brûlé à deux ou trois reprises, dont une fois, après une représentation de la nonne sanglante, les bons esprits de l'époque ayant pensé que le Saint-Esprit s'était choqué de voir des représentations théâtrales aussi. Alors qu'est-ce que le destin a bien voulu punir par l'incendie du Crédit Lyonnais ? Peut-être rien, peut-être que cet incendie n'est dû qu'au hasard et à la coïncidence, et sans doute est-ce vrai, peut-être aussi a-t-on voulu punir, au fond, l'esprit de lucre, le mélange du public et du privé, l'esprit de propagande, l'esprit de légèreté, et toutes ces choses dans lesquelles nous avons marché depuis avec allégresse, sans un regard en arrière.
On se retrouve lundi pour une nouvelle grande table d'été en hommage à Alan Parker. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchane Gergaillon, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation, Lise Combe, à la technique, Marie-Claire Oumabadi. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.